Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% Foot, votre émission consacrée à l'actualité du ballon rond. On va parler, comme vous en avez l'habitude chaque semaine, de l'Olympique de Marseille avec une grande page sur la défaite face à Lens et le classique qui arrive dimanche soir avec ce déplacement au Parc des Princes face au PSG. On va parler Ligue 2 aussi avec les aventures des 100 et hors de Martigues aussi qui ont connu une nouvelle désillusion en terre corse face à Bastia, et on va parler aussi de national avec cette équipe de Aubagne qui a concédé le match nul sur la pelouse de Boulogne. Voilà, un programme riche et copieux en compagnie de mes deux acolytes Franck et Patrick. Bonjour Franck, bonjour Patrick.
Bonjour. Salut. À toutes et à tous, bonjour Thierry.
Voilà, ben, on va lancer cette nouvelle émission avec d'abord la Ligue 2 et la défaite du FC Martigues sur la pelouse de Furiani face au Sporting Club de Bastia, 1-0 pour les joueurs de Hakim Alek. Donc malheureusement pas d'enchaînement de victoire concernant cette équipe martégale.
C'est bien dommage, d'autant plus que bon, ben, y avait la possibilité de, je dirais, d'essayer de récupérer des points pour toujours dans l'objectif d'une place de barragiste à laquelle je pense qu'ils pourront tout de même y accéder et se battre jusqu'au bout pour ce maintien.
Oui, et c'est vrai qu'après, il y a quand même eu des bonnes nouvelles. C'est la défaite de Caen qui, du coup, on craignait que Caen fasse une remontée depuis
Merci
l'arrivée.
Merci à Laval, ouais, qui voilà, les a battus 1-0 à domicile.
Qui sont fait battre chez eux par Laval 1-0. Donc, ça les coupe, ils sont quand même loin. Ils sont 18e et dernier. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils s'accrochent, Martigues. Parce que s'il y a des clubs qui ont des problèmes financiers, on parlait d'Ajaccio, c'est plusieurs fois qu'on le dit. Mais s'il peut y avoir peut-être une autre équipe, on ne sait pas, tu peux te faire repêcher ou te retrouver en barrage.
Ouais. Par contre, on suivra ça avec attention. Hein, voilà, si jamais il y a,
très rapidement, je voudrais faire le point justement sur leur situation à la 26e journée. Donc,
voilà, c'était la 26e journée de Ligue 2. Et
voilà, le prochain match, petite parenthèse, pour la 27e, Martigues recevra Pau. Ouais. Alors rapidement, pour voir le classement actuel, bon, Pau est 11e à 33 points, le Red Star est 12e à 32, Ajaccio, voilà, nous en parlions, 31 points, Rodez 14e, 30 points, Sicamien qui les suit, 30 points. Alors,
mais cette équipe paloise qui viendra à Turquin, elle est entraînée par une connaissance,
Nicolas Usaï. Oui, une vieille connaissance. Et donc, pour parler des équipes qui nous précèdent, ben voilà, donc il y a Clermont donc, qui est 16e avec 25 points. Nous sommes 17e, nous, Martigues, à 24. Ouais. Et Caen est évidemment dernier et bon dernier avec 19 points. Alors, espérons de se rattraper quelques points pour accéder à une position de barragiste.
Oui, à un point de Clermont, donc cette équipe martégale.
Oui.
Et donc le prochain rendez-vous pour cette équipe, c'est la réception
de Pau.
Ouais, ouais. Pau qui a été défait à domicile face à Troyes le week-end dernier 2-0 et qui voudra se ressaisir avec, comme on le disait il y a quelques secondes, l'ancien entraîneur de Istres, entre autres, qu'on a connu et qui a entraîné plusieurs clubs, Nicolas Usaï.
Ouais.
Voilà,
ouais,
ça sera son grand retour en terre provençale. Et,
ancien de l'OM, formé à l'OM.
Formé à l'Olympique de Marseille.
Et ancien responsable de la formation et de la réserve à l'OM.
Il est vrai.
Voilà.
Voilà, on a fait le tour pour la Ligue 2, donc on va enchaîner très rapidement avant d'attaquer la grosse partie sur la Ligue 1 et l'Olympique de Marseille avec le National et Aubagne qui ramène un point de son déplacement à Boulogne, but partout.
Qui a accroché un point, hein, qui n'a pas perdu un point, on peut dire cela ainsi. Parce que, bon, ben, statu quo au niveau pratiquement du classement, hein, parce que, bon, Valenciennes, 24 points, 5e, Dijon, 32 points, 6e, Bourg-Perona, que Aubagne rencontrera la semaine prochaine, voilà. Vendredi, à Delattre, ainsi que donc Aubagne est donc 8e avec 31 points, donc Rouen 30, Sochaux 10e à 27. Donc on est dans une position idéale pour le maintien.
Voilà, pour les joueurs des Dicardillo à l'occasion de cette 24e journée de National. Et donc le prochain rendez-vous pour la 25e, ce sera la réception de Bourg-en-Bresse vendredi soir à 19h30 dans l'enceinte du stade de Delattre. Les Aubagnais qui occupent la 8e place actuellement avec 31 points. Et donc l'autre, le week-end prochain, ce sera cette équipe de Bourg-en-Bresse qui occupe la place juste avant avec le même nombre de points. Il n'y a que la différence qui change, voilà, donc, avec plus 4 pour les...
Il faut se maintenir dans cette position du classement. Voilà.
Et tranquille. Et Boulogne, est quand même, ils sont allés prendre un point à Boulogne.
Belle performance.
C'est une équipe qui est sur le podium. Hein. Oui. Une belle équipe de nationale. Donc, c'est une bonne performance.
Voilà. Et Dicario, je pense qu'il a été justement épaulé. Il y a un nouvel entraîneur portugais qui est arrivé il y a peu à Aubagne. Donc, staff technique, évidemment, qui se remet en place, qui se recompose, et une continuité qu'on espère heureuse pour cette équipe.
Ça rentre dans la restructuration du staff voulu par les dirigeants aubagnais. C'est plutôt bénéfique. Voilà, ben on suivra les aventures de cette équipe aubagnaise dans les prochains jours, les prochaines semaines.
Ouais. Voilà. Si tu me permets, Thierry, simplement pour la D2 féminine, étant donné que beaucoup de rencontres ne se sont pas disputées sur l'ensemble de la D2 Arkema, et là, en l'occurrence, le prochain match pour l'OM, section féminine, et ce sera le 16 mars, dimanche 16 mars, à Rodez, et ensuite l'OM recevra Nice, et là, ça se passera chez nous au campus très probablement le dimanche 23 mars. Donc voilà, à programmer pour suivre notre équipe olympienne féminine.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour avec la Ligue 2, le National et la D2 féminine. Voilà, on va attaquer le gros de cette émission avec la Ligue 1 et la 25e journée. Je vais vite revenir sur les résultats de la journée. Donc, ça avait démarré vendredi soir avec Toulouse et Monaco qui sont fait match nul un partout. Samedi, Lille a battu Montpellier 1-0. L'OM s'est incliné 1-0 à domicile face au Racing Club de Lens. On va y revenir en grande largeur. Dimanche, Brest a battu Angers 2-0. Le Havre et Saint-Etienne, un but partout. Reims a perdu à domicile 2-0 face à la Géosserre. Strasbourg est allé gagner sur la pelouse de Nantes 1-0. Et en clôture, donc l'OM Piccioni est allé gagner sur la pelouse de Nice 2-0. Voilà ce qui nous donne.
Merci
donc,
à eux.
Voilà, au classement, donc l'Olympique de Marseille est toujours deuxième à 16 points du Paris Saint-Germain avec cette cruelle désillusion au Vélodrome face au Racing Club de Lens et ce but concédé dans le temps additionnel par les joueurs de Roberto De Zerbi. Voilà, but inscrit par le jeune Ney El Aïnaoui, jeune marocain du Racing Club de Lens. Une réaction, Patrick et Franck, sur cette défaite et ce mauvais résultat de l'OM juste avant d'aller au parc la semaine prochaine.
Patrick, quoi de réaction?
Oui, non, moi je pense, il y a beaucoup de choses et on va en parler. Ouais. Je pense que tu as montré ta faiblesse de ton banc et que ton problème, c'est un problème de défense. Qui aurait dit il y a un an que la blessure de Murillo était une catastrophe et qu'on allait avoir du mal à se passer de lui? De Zerbi a tenté le coup Rongier en pensant que bon, Lens va défendre, ils vont jouer derrière et que donc un joueur bon relanceur pouvait être mieux, mais défensivement on l'a vu.
Ça n'a pas été un cadeau pour lui.
Ça n'a pas été un cadeau pour Valentin.
Surtout dans une position axiale droite, il n'était pas latéral, comme il a pu l'être à quelques reprises précédemment.
Voilà, mais on rappelle que quand il avait joué arrière-droit avec Sampaoli, c'était arrière-droit, c'est-à-dire latéral. Il était un latéral très offensif. Et quand il avait joué défenseur central une fois avec Tudor en coupe contre PSG, où l'OM avait gagné 2-1, il avait joué axial, c'est-à-dire... C'est lui qui commandait la défense et son sens du placement, de la compensation avait été utile. Là, il jouait stopper droit.
Stopper droit, c'était
donc,
pas évident.
Voilà, donc, alors, il a eu peu de travail défensif, mais le but, il vient d'une action où il est battu, il fait une erreur. Après, on ne peut pas reprocher à un bon joueur de devoir d'avoir commis une erreur, ça arrive. Ce n'est pas son poste et tu as un vrai problème en défense. Kondogbia Dépanne à gauche fait ce qu'il peut. Il n'y a que Balerdi qui tient la route. Ouais, et...
avec le brassard. Mais c'est vrai que jamais on aurait imaginé que, malheureusement, avec cette blessure d'Amir Murillo, le latéral panaméen face à Nantes la semaine dernière, qui sera absent pour plusieurs semaines, d'après Roberto De Zerbi, on allait se retrouver aussi handicapé, pénalisé sur le plan défensif.
C'est une évidence. Déjà, s'imaginer que Balerdi soit la seule personne sur laquelle tout repose au niveau défensif, on avait du mal à se l'imaginer ces dernières années. Et pour Murillo, une chose est sûre, c'est que l'handicap est marquant. Et on ne peut pas, justement, je dirais, nous n'avons pas de joueurs à ce poste. Véritablement, et le milieu de terrain, aussi, on peut en parler, n'a pas été exempt de tout reproche avec quelques entrées inédites et une composition. Voilà. Avec
justement, je voulais revenir sur la compo de départ, ce qui a surpris beaucoup de monde avec l'absence au coup d'envoi de Mason Greenwood et de Luis Enrique, qui sont quand même ton meilleur buteur, avec 15 buts pour l'Anglais et le Brésilien qui fait partie de tes meilleurs passeurs depuis le début de la saison. C'est quand même un choix assez inexplicable de la part du technicien italien sur ce match-là.
Oui. On peut l'expliquer, Patrick, évidemment, de plusieurs manières. Le choix de De Zerbi en est un. Des joueurs qui voulaient apparemment, sanctionner, entre guillemets, pour leur manque d'intensité à l'entraînement. Ouais. C'est une chose.
On a parlé d'un manque d'implication. Voilà, c'est ce que Roberto De Zerbi a expliqué en conférence de presse la veille du match.
En même temps, Lens était privé de beaucoup de joueurs et resté sur
4 matchs sans victoire. On sait qu'avant de ce déplacement au stade Vélodrome, cette équipe lensoise, elle était vraiment dans une très mauvaise passe.
Donc De Zerbi s'est permis, je ne sais pas, de parler d'extravagance, mais de nouveauté, de faire tourner un peu son effectif. Mais c'est un avis personnel totalement trompé, on peut le dire après coup.
Après, moi je pense que le reproche, c'est un problème d'investissement, y compris à l'entraînement. Et on a eu,
il y a eu cette petite pique qui a été lancée à l'occasion de la conférence de presse de veille de match. Hasard.
Et donc, tu veux piquer tes joueurs, il les fait rentrer à la mi-temps.
Ouais.
Si les mecs, ils flambent, ils marquent, ils font marquer, on dit coup de génie de
De
Zerbi.
Le scénario est parfait, oui.
Mais là, malheureusement, l'entrée de Luis Enrique et Mason Greenwood en début de seconde période, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment portée...
Oui, Thierry, tu as
changement,
tout à fait raison.
Je veux dire, ça n'a pas changé la physionomie de la rencontre.
Enrique était un peu plus impliqué que Greenwood, qui était plus que transparent, et il est de plus en plus, on attend trop de lui, mais il est transparent totalement.
Alors, tout le monde a remarqué que Greenwood n'est pas le Greenwood du début de saison qui marchait sur l'eau, qui marquait, qui faisait marquer.
Vous ne pensez pas qu'on s'est peut-être un peu trop enflammé sur ce joueur et sur Mason Greenwood qui est quand même un talent assez impressionnant? Mais on sait qu'avec ses problèmes extra sportifs, il a eu...
Et sportif, on peut le dire également, puisque il est jeune, ne l'oublions pas.
Ça fait couler beaucoup d'encre l'arrivée de Mason Greenwood à Marseille. Et puis finalement, là, on s'aperçoit que le choix des dirigeants, que ce soit Pablo Longoria ou Mehdi Benassia, qui ont validé cette arrivée.
Il ne faut pas le regretter, c'est un joueur magique, sauf qu'évidemment, là, il est un peu en dedans depuis quelques semaines, quelques matchs. Il va retrouver un niveau auquel nous attendons de lui.
Mais c'est là qu'on rentre dans le sprint final et donc il ne reste pas beaucoup de matchs. Donc on atteint un réveil assez rapide de la part de Mason Greenwood sur les prochains matchs.
On va commencer par dimanche prochain. Je vous laisse œuvrer.
Après ta contradiction, on parlait d'un club qu'on n'aime pas et qu'on joue dimanche prochain d'ailleurs. Et je regardais.
On aura l'occasion
d'y
revenir
un petit mot.
Un peu plus.
Moi, j'ai beaucoup aimé Kvaratskhelia, qui est le Géorgien, qui est un formidable joueur. Il coûte 80 millions d'euros et un salaire de plus d'un million d'euros par mois. Donc, à un moment donné, pouvoir avoir Greenwood à 25-30 avec les bonus à Manchester Et un salaire, il a accepté un salaire à la 500 000, quoi. C'est-à-dire, pour l'OM, c'est faisable. Tu l'aurais pas s'il n'avait pas eu ses problèmes personnels.
Et oui, c'est sûr et certain. Après, c'est,
pas là, voilà.
Ça a été une opportunité de marché qui, voilà. sur laquelle les dirigeants marseillais ont sauté sur l'occasion. Donc,
voilà. Et ce qu'on peut dire, moi, en tout cas, ce qui me crève les yeux, c'est que le mec a du football plein les pieds, il est surdoué. Après, comme beaucoup de surdoués, et en Angleterre, il y en a quelques-uns, Jadon Sancho, des mecs comme Sarah M. Sterling et tout, dont on me disait Monts et Merveilles, et puis qui...
Et quand on voit aujourd'hui où ils sont,
voilà,
les joueurs
sont,
que tu viens
voilà,
de citer,
et
que ce soit Raheem Sterling
voilà,
ou Jadon Sancho,
ou des mecs comme ça, tu as eu l'occasion d'avoir, pour un prix modéré, je rappelle Kvaratskhelia, 80 millions. Quoi. Voilà, ouais. Il y a des joueurs.
Tu aimes bien
mais c'est vrai que pour...
la rentabilité.
Voilà,
oui,
Patrick, pour la Ligue 1, à l'échelle de l'Olympique de Marseille, le fait de pouvoir faire venir un joueur tel que Mason Greenwood, c'est quand même quelque chose
c'est,
de...
c'est miraculeux. Non. Et c'est un joueur qui, techniquement,
il y a quelques
au-dessus.
Années,
voilà.
Jamais on aurait pu imaginer qu'un talent sorti tout droit de l'académie de Manchester United puisse arriver en France, en Ligue 1 et à l'Olympique de Marseille.
Voilà. C'est absolument vrai. Et donc, ce garçon, il faut un petit peu de patience, évidemment, et nous espérons de tout cœur cette ligne droite, ces derniers matchs, il sera justement à l'aise et comme son talent l'indique.
Après, ce qu'il faut voir, c'est que quand il était en pleine bourre en début de saison, avant la trêve, il t'a fait gagner des points. Il a marqué des buts.
Mais c'est vrai
marquer.
Qu'il a fait un début de saison canon et
voilà.
Il a démarré le championnat sur les chapeaux de roue avec cet enchaînement de buts. Bon. Et on a vu que dans le jeu, il était très, très
donc,
impliqué.
Thierry, je me pose la question suivante, et en tout cas de Zerbi, c'est en tout cas ce qui a dû le titiller. C'est l'implication peut-être. On attend de lui peut-être un peu plus défensivement. De faire
je pense que c'est ce qui lui a été en partie reproché à lui et Luis Enrique sur les entraînements de ses dernière semaine.
Voilà, oui, et donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, un entraîneur qui pique un joueur en le mettant sur le banc, quand ça marche, tout le monde applaudit, crie au génie,
oui.
Et puis si le joueur il rentre, il fait une rentrée comme Greenwood dimanche, c'est-à-dire très... Luis Enrique fait une rentrée correcte, il a fait un match moyen, voilà.
Démérite pas.
Voilà, il démérite pas. Mais Greenwood a été nettement en dessous, il n'est jamais arrivé à frapper, il a été contré à chaque fois.
C'est vrai que sur les 45 minutes qu'il a passé sur la pelouse,
il a
quasiment tout raté, tout ce qu'il a entrepris, ça c'est...
Et après, je peux comprendre les critiques de Zerbi, ça fait plusieurs semaines qu'on dit que Greenwood, il est moins bien, qu'on dit qu'il ne défend pas, qu'il ne fait pas le pressing et qu'il ne vient pas aider les collègues quand il perd le ballon, que après, l'entraîneur ait voulu le titiller un peu, à mon avis, il a raison sur le principe.
Et après, ce n'est pas des paroles des suiveurs de l'Olympique de Marseille, des lanceurs d'alerte ou quoi. Je veux dire, c'est même son entraîneur, c'est le technicien.
Oui, qui le voit tous les jours.
Je veux dire, je pense que Roberto De Zerbi, il voit l'évolution du joueur au quotidien à travers les entraînements. Donc,
et pourtant, tout observateur ne peut le nier. Il suffit malheureusement de le constater.
Voilà, c'est un joueur très talentueux. C'est de très loin le meilleur joueur de l'effectif, en classe pure. Hein. Après... Il a peut-être le côté qui est fréquent chez les joueurs de talent, d'être un peu dilettante, de
lâcher. C'est peut-être sa nonchalance qui doit poser problème, je pense, pour...
Son manque d'implication.
Et le manque d'implication, c'est surtout sur lequel Roberto De Zerbi a vraiment insisté au cours de la conférence de veille de match vendredi.
En même temps, s'il était clinique sur tous les ballons qu'il touchait, on pourrait lui passer cela, quoi. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, pour l'instant.
Franck, pour te répondre, en début de saison, il était le meilleur joueur, pas que de l'équipe, il a été même meilleur joueur du mois de la Ligue et tout. Personne ne critiquait, pourtant il ne repliait pas, il ne défendait pas.
N'oublions pas qu'il est toujours dans le trio de tête, au niveau du classement des buteurs.
Il te fait gagner, tu dis rien. Il est pas bon et tu perds, ça tombe quoi, voilà. Et c'est vrai que c'est un joueur très doué, mais il faut le remettre un peu et peut-être que il a voulu le piquer. Moi, quand je l'ai vu rentrer à la mi-temps, on parlait avec les copains en tribune, on disait c'est bon, il va être vexé, il va te faire un gros match. Malheureusement, il a pas été bon, voilà. Mais après. normalement, même avec Dedic et Amir qui remplacent et Amir
Bilal Nadir,
voilà, et ouais, Bilal ouais. Nadir qui
était titulaire au coup d'envoi
et qui ont fait des matchs moyens, qui ont
oui,
fait leurs matchs,
on peut le dire,
qui sont battus, qui ont fait ce qu'ils ont pu.
Oui, parce que c'est vrai qu'on insiste surtout sur les deux titulaires habituels, voilà. Mason Greenwood et Luis Enrique, mais bon, on peut parler quand même de leurs remplaçants respectifs qui avaient été titularisés au coup d'envoi par Roberto De Zerbi, en l'occurrence Bilal Nadir et Amar Dedic, le jeune bosnien.
Il est vrai qu'on pouvait attendre justement, ben justement des remplacements judicieux de la part de De Zerbi, parce qu'il faut les faire jouer ces gars-là, mais ils n'ont pas fait un super match, c'est rien de le dire. Nadir a été un peu malheureux, il a eu deux frappes, première mi-temps qui était un peu qui n'était pas très précise, une implication, une envie, mais il ne réussissait pas. Dedic de son côté n'a pas été formidable, il a été loin de son niveau. Donc évidemment que l'ensemble des choses ont créé un match très très moyen de notre part.
Après, quand tu joues une équipe comme Lens qui est en difficulté, qui est une équipe de milieu de tableau, il te manque un ou deux joueurs.
Cette équipe de Lens, quand même, elle a perdu ses meilleurs éléments lors du dernier mercato hivernal. Oui. Donc, on sait que pour l'entraîneur Will Steele, c'était très compliqué ces dernières semaines. Et il n'arrivait pas avec toutes ses forces. Il n'arrivait pas avec un maximum de confiance lors de ses déplacements au Stade Vélodrome samedi soir.
On peut en parler, par exemple, des équipes comme Lens, mais il y a Reims ou il y a Montpellier, qui ont eu, au mercato d'hiver, ont vendu plusieurs joueurs de titulaires pour combler les déficits et les budgets. Et les conséquences, c'est que le message que tu envoies à tes autres joueurs, c'est on a des problèmes financiers, on vend pour boucler le budget. Ouais. C'est pas très encourageant et ça m'étonne pas de voir Montpellier et Reims en grosse difficulté.
C'est vrai que pour cette équipe en soi, c'est quand même surprenant d'être confronté à ce genre de problème sur l'aspect financier.
Parce que pour Montpellier et Reims, on peut comprendre que l'urgence est absolue.
Et c'est vrai que quand on regarde le classement aussi, tu parlais de Montpellier et Reims, Montpellier qui occupe la place de lanterne rouge de cette Ligue 1 et le Stade de Reims qui est à peine un peu mieux et qui aujourd'hui, après 25 journées, occupe la 15e place avec 22 points, cette équipe champenoise.
Et donc, en théorie, une équipe de haut de tableau comme l'OM, comme on pourrait dire de Lille, de Monaco, de Lyon, même si te manque deux titulaires, tu dois être capable de gagner un match contre une équipe en difficulté et qui n'a. Moi, ils m'ont rien montré, les Lensois. Ils ont été courageux, ils ont défendu. Mais si tu cadres tes frappes, si tu fais plus de jeux, tu dois gagner le match quand même. Ouais. Et là, tu l'as pas fait et tu as essayé de faire rentrer tes deux joueurs à la mi-temps, ce qu'il a fait. Et même, je trouve que le changement, tenter Mopé. C'était des bonnes idées parce que les mecs, ils ont amené devant.
Peut-être un peu tardif.
Mais c'est vrai que peut-être, quand on voit l'entrée de Jonathan Rowe à 20 minutes de la fin et celle de Neil Mopé à un quart d'heure de la fin, comme le disait Franck, est-ce que pour Roberto De Zerbi, je veux dire, lancer ces deux cartouches offensives, c'était pas peut-être un peu tard?
Me semble-t-il, oui, complètement. Même temps, peut-être un peu de manque de confiance pour ces deux joueurs.
Parce que quand on a vu quand même l'entrée de Mason Greenwood et Luis Enrique à l'entame de la seconde période, on s'est dit, les deux sont en difficulté, ils n'arrivent pas à faire la différence. Donc, est-ce qu'il ne fallait peut-être pas lancer l'anglais Jonathan Rowe et Neil Mopé avant? C'est une question à laquelle on peut quand même se poser.
Quand tu vois le match qu'a fait Rowe, où il a été transparent,
c'est vrai qu'on voit qu'il est en difficulté ces dernières semaines.
On peut parler de manque de justesse technique par sa transparence, même sentir de la plus d'implication de leur part avec Mopé.
Moi, ce que je reproche, c'est Mopé a fait une bonne rentrée, s'est battu. Alors, il a eu une occasion, il n'a pas mise, le gardien a contré, mais il a fait une rentrée combative et il a fait une bonne rentrée. Rowe, ma foi... Oui, on m'a dit qu'il était rentré, j'ai vu qu'il était rentré, mais je n'ai pas vu dans le jeu. Quoi. Ouais. Il n'est pas passé.
Il a juste fait acte de présence sur la pelouse.
Voilà, il n'a pas dribblé, il n'a pas mis le feu. Même tu mets le feu de manière brouillonne, mais tu mets le feu, ça peut être utile.
Ce qu'on attendait de sa part.
Ce qu'on attendait de sa part, comme tu le dis, Franck, et il a été transparent. Donc,
Je pense que c'est en partie pour laquelle les dirigeants de l'OM l'ont recruté.
Oui, c'est
ce joueur qui arrive de Championship, on le rappelle pour nos auditeurs.
Qui est un combattant, qui est un feu follet, qui tente, ben, il n'a pas fait. Donc, c'est aussi, moi je pense, pour avoir vu le match, c'est quand même les joueurs qui n'ont pas été bons. Alors après, il y a un problème technique, moi, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois à cette antenne, hein, on était tous d'accord.
C'est une évidence.
C'est que ton jeu, tu avais donc Guiri en pointe, qui n'est pas une véritable pointe.
Justement, je voulais vous entendre sur la prestation et le match de l'attaquant algérien Amine Guiri, qui a été désigné meilleur joueur du mois de février.
Ben, s'il marque en première mi-temps, ça peut changer le scénario du match.
Avec des buts et des passes décisives depuis son arrivée en provenance de Rennes.
Voilà,
mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une belle frappe en première période sur la transversale de Mathieu Ryan.
C'est le gardien qui la détourne sur la barre, d'ailleurs. Ouais, la frappe, elle est cadrée. Il a fait son match. Le problème, c'est que Lens jouait avec une défense à 3. Il était seul au milieu de 3 mecs. C'est pas un cadeau. Et normalement, les bons matchs qu'il a fait, c'est quand il y avait des joueurs qui plongeaient, Greenwood, Luis Enrique, entre autres, voire Mopé, qui venaient jouer avec lui. Et là, il était trop isolé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que font tous les attaquants de pointe dans ce cas-là. Tu vas derrière chercher les ballons, tu redescends.
Merci Patrick, voilà. C'est important ce que tu dis. Hein, manquait ce joueur à côté de lui.
Et donc,
En fait, c'est peut-être par rapport au système qui est mis en place par l'équipe adverse.
Oui. Ah oui, les mecs.
Aussi, le système défensif de Lens a perturbé notre attaquant.
Lens, ils ont joué à 5 défenseurs. Ils n'ont pas joué en 3-5-2 ou en 3-4, machin. Les deux latéraux étaient arrière. Ils jouaient derrière.
C'est vrai que là, avec le départ de Kevin Danso et Kousanov, le jeune ouzbek, City, cette équipe lensoise, elle a en partie modifié son.
Voilà, et ils ont remplacé par des gamins de 18 ans qui sont très jeunes. Et donc, ils ont joué très bas. Ils avaient une ligne de 4 devant. Avec Sotoka, entre autres, El Aïnaoui et tout.
Et Wesley Saïd aussi.
Voilà. Seul en pointe, qui a fait ce qu'il a pu. Il a surtout pressé pour gêner la relance. Et il a eu un ballon en première mi-temps, mais Rouli, heureusement, a bien sorti l'action. Mais sinon, ils n'ont rien. Donc, tu te retrouves à devoir jouer. Et quand tu as un bloc bas qui défend à 9...
Ils ont plus joué à 3, à 5 qu'à 3 derrière.
Ouais. Donc, moi, je pense que c'est pour ça... que y compris De Zerbi à faire entrer Rowe et Mopé pour mettre des attaquants qui dribblent, qui créent des brèches, parce que Guiri est resté. Donc ça veut dire que tu essayes de... Il a sorti Benacer qui est un milieu, milieu défensif pour faire entrer un attaquant.
Qui n'a pas fait un mauvais match.
Donc voilà.
C'est vrai que pour son compatriote algérien Ismaël Benacer, on l'a vu un petit peu meilleur que face à Nantes dernière, toujours au stade Vélodrome.
Tu as tout à fait raison.
Mais c'est vrai que pour un joueur qui arrive de l'AC Milan, on est quand même en droit d'attendre beaucoup mieux de la part de Benacer.
Si je peux me permettre.
Je pense que sur ce match, il a quand même en partie déçu.
Oui.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, Franck et Patrick. Est-ce que vous abondez dans mon sens?
Je dirais qu'il a été, comme tu le dis, meilleur que face à Nantes. Mais moi, ce que je reprocherais, après, on ne va pas refaire des
reproches. On n'est pas à la place de Roberto De Zerbi.
Au niveau technique, qui pour moi, il n'a qu'un pied droit. Hein, bref, ce n'est pas grave. C'est mon idée. Maintenant, c'était par rapport à Guiri, l'animation offensive, sans critiquer De Zerbi. Le trouver isolé comme ça, Guiri, devant, comme Patrick le disait très justement, il manquait quelqu'un auprès de lui, justement, pour... l'aider justement à investir et ne pas que Guiri recule pour aller chercher des ballons. Donc comment occuper cet espace avec...
C'est le manque d'apport offensif que tu veux mettre
absolument.
En avant là,
c'est
par rapport à la compo de départ de Roberto De Zerbi et ce schéma tactique qui en a surpris plus d'un, je pense, au coup d'envoi.
Oui, mais quand tu regardes la contradiction, c'est que les deux attaquants potentiels qui étaient sur le banc, parce que je rappelle que Moumbagna n'est pas rétabli de ses ligaments croisés.
Mais apparemment, je pense qu'il est plutôt sur la bonne voie.
Il a repris
l'entraînement.
Il a recommencé la course.
Après, il y a un banc très très jeune. Il y avait le petit Bacola qui était sur le banc aussi.
C'est plus un milieu, mais c'est un gamin de 17 ans et demi.
C'est compliqué.
Et il y a le jeune Robinho Vaz qui est blessé aussi, qui est un attaquant très puissant.
Mais c'est vrai qu'on le voit moins ces dernières semaines dans le groupe.
Et donc, De Zerbi, il a fait rentrer les deux attaquants qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire Rowe et Mopé.
Peut-être un peu tardivement.
Malheureusement, il n'y avait pas d'autres cartouches offensives sur le banc.
Et Bennacer, moi je pense qu'il faut un joueur, c'est ce qu'avait dit Benatia à juste titre, il n'y a pas de mauvais joueur, il y a de mauvais contexte. C'est-à-dire, Bennacer, c'est un milieu récupérateur. C'est un gros travailleur qui ratisse, qui relance, mais c'est pas non plus Toni Kroos, hein, c'est un bon défenseur, mais quand tu as le ballon, que les mecs ils te pressent pour te gêner, mais à part ça, ils sont tous derrière, il faut des passes qui cassent les lignes, il faut des actions. Et ce n'est pas forcément la qualité principale
de Bennacer. Justement, a-t-il la capacité de donner ces ballons que nous attendons au niveau offensif pour créer quelque chose ?
Je pense que quand on le voyait jouer auparavant avec l'AC Milan ou même avec la sélection algérienne, on ne l'a pas énormément vu dans ce registre.
Alors, moi, je l'avais vu dans ce registre-là lors de la CAN que l'Algérie a gagnée.
En 2019.
2019, et même... je crois que c'était la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, où il avait joué, l'Algérie n'avait pas gagné. Mais sur des actions de contre, il a une belle...
C'est vrai qu'avec la sélection algérienne, il est positionné différemment.
Il a une qualité de passe qui n'est pas négligeable. Mais en contre.
Il faut voir le contexte.
Orlans ne t'a jamais laissé des contres. Ils étaient tout le temps derrière. Donc, tu avais un problème de... Et moi, ce que je pense, c'est que ce qui te manque dans ces moments-là, c'est ce qu'aurait pu apporter Greenwood et Luis Enrique et qu'ils n'ont malheureusement pas vraiment apporté en seconde mi-temps, c'est le dribble qui fait que tu élimines un joueur.
J'en reviens à cette carence qui était criante face à Lens. Il manquait cette possibilité de faire la différence sur un dribble, sur une passe.
Sur une action qui
crée une brèche.
C'est
vrai qu'on attendait vraiment cette étincelle de la part de Mason Greenwood ou Luis Enrique pour faire la différence.
Et ils sont passés à côté de leur match. Et c'est pas un Højbjerg ou un Rabiot ou un Bennacer qui va te dribbler deux gars, qui va te créer une situation. C'est pas leur truc.
Malgré leur compétence technique, tu le dis fort justement, c'est pas leur truc. Ils ne sont pas aptes à ça.
Et si on pense à l'année prochaine, on en parlera peut-être en fin d'émission. La défense centrale, alors là, c'est monstrueux. Et surtout, devant des joueurs de rupture qui créent des brèches et qui font mal, parce que Gouiri est un bon joueur. Moi, à la limite, je le verrais plus en 10, Gouiri. Sur un côté avec Greenwood ou un autre joueur à droite, derrière l'avant-centre, mais un avant-centre qui fixe la défense. Lui, c'est pas un homme de... C'est pas trop son truc, même si c'est un bon joueur. Et là, en fait, là où moi j'ai été un peu déçu, c'est que, comme le match contre Saint-Etienne il y a 3 semaines, tu marques le premier en début... Les mecs sont morts.
Après, ça s'enchaîne.
Parce qu'après, ils sont obligés de sortir un peu. Tu prends des comptes. Là, les mecs, plus le temps passait, plus ils tenaient le résultat et c'était fort à la mot, quoi. Ils dégageaient en touche des grands coups de pied et tout. Leur gardien a fait un très bon match.
Il faut le souligner.
C'est vrai qu'il y a quand même une grande performance de Mathieu Ryan, portier australien du Racing Club de Lens.
Toi, tu as quand même deux poteaux. La frappe de Guiri détournée sur la barre et une tête de Balerdi sur corner, sur poteau, sur la barre. Tu as des occasions, tu cadres pas, tu rates tes frappes.
Après, il y a peut-être un grand gardien en face, un manque de réussite côté olympien. Mais après, je pense que peut-être. Pour l'OM, c'est peut-être pas suffisant pour réussir à trouver la brèche et réussir à marquer ce premier but qui libérerait les Olympiens un match comme ça, surtout à domicile.
Quand tu regardes le début de saison où on marquait beaucoup, un mec comme Rowe, d'ailleurs il a même été mis titulaire à plusieurs reprises par De Zerbi, il était tout fou. Il driblait, alors il perdait beaucoup de ballons, il avait beaucoup de déchets, mais il mettait le feu.
Voilà, il y avait un enchaînement collectif qui permettait...
Et malheureusement, ces dernières semaines, on voit que Jonathan Roux, il n'est plus du tout dans ce registre.
Il avait fait une bonne rentrée contre Saint-Étienne, mais tu menais largement. C'est psychologiquement
après
pas
peut-être
pareil.
Faut le lancer le sortir du banc dans un contexte plus favorable, mais c'est vrai que là peut-être à 0-0
d'accord.
un match assez cadenassé
voilà oui
on voyait qu'il y avait pas trop de risques qui étaient pris de la part
comme
de cette équipe
lensoise. Il reculait beaucoup, lui il était du côté droit puisqu'il jouait ailier gauche. Et il était ailier gauche, alors il avait dû lui dire essaie de créer des brèches, de tenir ta ligne, la ligne de l'aile gauche. Et on l'a très peu vu tenter, il a fait 2-3 tentatives de dribble mais qui n'ont pas réussi. Il faut dire qu'il avait 2-3 mecs dès qu'il avait le ballon.
Et là, s'ils étaient mordicus, il lâchait rien.
Les mecs, ils ont rien
lâché. C'est vrai que ce but en soi, là, marqué par El Aynaoui, ça vient quand même sur une passe du latéral gauche colombien, Machado.
Certains reprochent à Enrique de ne pas avoir suivi l'action, de l'avoir laissé passer sur son plan droit. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Simplement, c'est vrai,
qu'on était à 4 minutes au-delà du temps réglementaire.
Certains jettent la pierre à ronger. Je ne vais pas être nominatif.
Après, c'est vrai qu'on a parlé surtout de la recomposition défensive avec cette absence de Murillo et ce repositionnement de Valentin Rongier.
Oui, après, il y a eu quelques changements aussi en seconde période. Voilà, donc il fallait... Bon, malheureusement, on est passé
des changements qui n'ont rien apporté.
Voilà. Après, Luis Enrique, c'est vrai qu'il ne suit pas son latéral. Mais à ce moment-là, il faut remettre le contexte. L'équipe poussait pour arracher un but. Mmh. Il y avait le stade qui poussait pour arracher un but. Il est resté milieu de terrain et il attendait le ballon pour essayer de lancer un contre. Après, l'autre, il joue. Physiquement, il a dominé Rongier. C'est quand même une baraque, Machado. Oui. Et du coup, tu aurais eu un défenseur plus expérimenté, plus défensif. Le but, tu le prends pas. Après, Rouli ne peut pas faire des miracles à tous les matchs.
Et pourtant, il a fait deux belles parades.
Après, voilà. Et moi, je pense que le vrai problème, c'est qu'offensivement, vu le système de jeu qu'ils avaient mis en place, ils avaient mis le bus à la Mourinho de la grande époque. Tu as manqué de joueurs offensifs qui créaient des différences. Quand tu en as fait rentrer à la mi-temps, les deux ont raté leur match. Enrique et surtout Greenwood. Et là, moi, ce qui me frappe, c'est que dans ces cas-là, et on dit qu'il faut frapper les 25 mètres. Le ballon peut être détourné, peut y avoir un cafouillage, le gardien peut se trouer, et tu ne frappes pas.
Je le dis souvent.
Les rares frappes, c'est le jeune bosnien, la Dedic, qui a frappé en première mi-temps, et Nadir, effectivement, Bilal Nadir. Mais ces cas-là, des défenses très basses et très renforcées, il faut frapper. Et tu ne frappes pas. Et
ça peut aussi permettre de faire sortir un bloc. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas eu la justesse.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de frappes. Quand je regarde les stats, je vois 6 tirs cadrés pour l'Olympique de Marseille.
Il y a ceux qui ne sont pas cadrés quand même aussi.
Oui, il y en a pas mal. Il y a eu pas mal de tirs cadrés de Greenwood, d'autres de Højbjerg et tout, qui ont essayé de frapper, mais les mecs, c'était les morts de faim. Ouais. Ils se sont mis au contre. Et toi, tu as là un problème.
Et c'est vrai que pour cette équipe lensoise, 2 tirs cadrés, 1 but, je pense que le réalisme a fonctionné.
Niveau ratio, ils ont été au top. Ouais.
Complet, oui. Et après, le problème, c'est que normalement, alors après, un accident peut toujours arriver.
On en a eu quelques-unes tout de même.
Il n'y a que ceux qui n'ont jamais... Mais autant, à Auxerre, tu as été mauvais, tu n'as pas existé. Autant là, tu as la possession, tu te crées quelques occasions. Il t'a manqué des joueurs offensifs qui créent des différences et des brèches.
Patrick,
c'est surtout le manque de réussite qui fait la différence et qui nous empêche de remporter ce match.
La possession, Thierry, tu as les chiffres. La possession, elle nous appartient toujours.
Je vois quand même.
Mais c'est pas
j'ai noté les stats. Là, il y a 76% de possession en faveur de l'OM et 24% pour les Lensois.
Le Babel-S, c'est ce que nous faisons justement de cette possession. solution, comment je l'optimiser. Et c'est toujours le même problème. Alors après, on va pas revenir sur ce sujet.
Voilà,
ce
non, mais c'est le problème des équipes.
C'est récurrent.
Alors on dit Guardiola, Luis Enrique, De Zerbi, c'est un peu le même style, la possession. C'est vrai que quand il y a la possession, l'adversaire ne l'a pas. Donc, si tu joues bien, tu ne perds pas le ballon, ben l'autre, il n'a pas d'occasion. Mais, et puis, il court dans le vide,
c'est
ce
mathématique.
Qui est fatigant. Voilà.
D'accord.
Mais le problème, c'est faire du handball. C'est voilà, à un moment, il faut aller dans la surface, il faut tirer ou il faut centrer. Et tu l'as trop peu fait.
C'est le
parce
but.
Qu'à mon avis, tu n'avais que le jeune Nadir, qui était joueur offensif. Merlin n'a pas été énorme et Dedic à droite en première mi-temps n'ont pas été fantastiques. Alors ils se sont battus, c'est pas une question qu'ils ne soient pas battus. Mais
ça, on ne peut pas leur reprocher le
voilà,
manque
oui,
de combativité.
Ils mouillent le maillot.
Ils font,
dit,
ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, voilà, après, c'est pas.
Voilà, j'ai trouvé Guiri totalement isolé,
oui,
malgré les apports offensifs.
Il y a eu des centres de Dedic ou de Merlin. Qui étaient les hommes de couloir, mais Guiri, il est seul, il a trois mecs.
C'est vraiment compliqué dans voilà. ce système, je dirais.
Voilà.
Il s'est retrouvé chaque fois très, très esselé pour
surtout
faire
que
la différence.
Je me dirais, c'est Erling Haaland, il fait un 94, c'est une armoire.
Mais c'est vrai mais qu'avec le physique
Guiri,
qu'il a,
Amine
Guiri,
voilà.
c'est.
Face au Golgoth Lensois, ben, il était. Et là, c'est le. Tu as trop voulu jouer à l'espagnol de la. La caricature, quoi. Tiens, on disait, tu veux rentrer avec le ballon dans les buts, quoi. Ben non, des fois, il faut frapper. Et on a été... Et quand tu marques pas rapidement, tu t'exposes. Tu t'exposes.
C'est vrai qu'on a vu quand même qu'au fil du match, au plus les minutes passées, et au plus on voyait que l'OM se retrouvait de plus en plus en difficulté.
En tricotant, on a fini par détricoter le jeu. On n'a pas réussi à créer quoi que ce soit. Et j'en reviens au niveau offensif. Ben, il faut parler, jouer à la baballe, c'est une chose. Mais quand il y avait des grandes équipes avec des grands joueurs pour se faire, parlons des Espagnols, par exemple, oui, ils avaient quand même des joueurs qui faisaient la différence. Bon, après, on peut passer à côté d'un match, je le comprends tout.
Mais là, on a vu que vraiment, ça ronronnait trop.
Oui,
et
oui,
c'est ça qui
a,
nous a peut-être...
Il y a eu des moments... Donc moi, je suis virage sud, donc deuxième mi-temps, l'OM attaquait devant moi, contrairement à d'habitude.
Enfin, tu t'attendais à avoir
voilà.
des buts.
Et donc, il y a eu des moments où moi, j'ai remarqué, tu avais Rongier, Balerdi, Kondogbia, dont tes trois défenseurs centraux, qui étaient à 30 mètres des buts, et qui avançaient avec le ballon et qui cherchaient une passe. Et il y avait des mecs qui appelaient un peu sur l'aile, un peu décalé, mais voilà. Et tu as un problème de passe. Alors, soit tu envoies dans le paquet, mais tu n'as pas de grands joueurs de tête, contrairement au Lensois qui avait des costauds. Soit tu essaies de chercher, de déséquilibrer. Et là, il te manque des joueurs vifs, dribbleurs, qui vont faire une différence et créer une brèche.
Avec des milieux décrocheurs
voilà.
qui peuvent
et
récupérer.
Parce que moi, j'avais donc, sur mon côté, j'avais le pauvre Kondogbia qui montait, qui essayait. Qui cherchait à qui il allait donner le ballon et qui remettait en retrait à Balerdi, qui remettrait à Rongier, qui rendait à Balerdi. Et à un moment donné, il y a eu un moment d'ailleurs en seconde mi-temps où Balerdi a fait une percée, il est parti, il a foncé tout droit et il a créé une situation. Après, il a raté la passe, donc tu t'es retrouvé en galère parce qu'il était à 70 mètres de ses buts, et tu t'es fait intercepter, tu étais en difficulté. Mais,
oui, mais
c'est ce genre d'action de mec,
faire, oui.
comme on disait de Paul Pogba, c'est le mec qui transperce et qui crée des brèches. Et toi, tu n'as pas trop ce type de joueur. Voilà, ce n'est pas Bennacer, ce n'est pas Hübner. Voilà, c'est peut-être Rabiot, mais Rabiot jouait plus haut. Ouais. Donc, il n'était pas dans cette position-là. Et donc, tu as un problème technique qu'il faut face à des blocs très bas. Comment tu vas jouer pour avoir des mecs qui
donc là,
créent
des situations ?
Donc là,
c'est peut-être un système à prendre en considération pour les prochains adversaires qui viendront
après,
Vélodrome,
le système est très bien intégré par les joueurs, Thierry, c'est vrai, et aussi par nos adversaires. Donc, si on n'a pas les joueurs qui arrivent justement dans la justesse à... aller au-delà du système demandé et qui ont cette plus-value justement qui vont faire des jets, créer des brèches, des actions que l'on n'attend pas forcément, mais sans ça, nous en sortirons pas. Et là, je fais référence probablement au match du dimanche prochain.
Justement, la transition, elle est tout trouvée, puisque je voulais revenir là, dans cette dernière partie. Il nous reste encore un gros quart d'heure avant la fin de cette émission. Mais je voulais aborder ce déplacement au parc qui attend les Olympiens dimanche soir. Et cette équipe de Paris qui s'est qualifiée hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec une victoire 1-0 à la fin du temps réglementaire. Et ça s'est joué sur ces tirs au but. Voilà, 4 tirs au but à 1 pour les Parisiens avec un grand Gigio Donnarumma qui a stoppé... qui a repoussé deux tirs de joueurs de Liverpool.
Ouais, ouais. Donc, je me demande si je ne les aurais pas arrêtés moi-même. Ce n'est pas bien ce que je dis, mais bon, les deux tirs qui ont été arrêtés, bon, ils n'ont pas été tirés pour marquer. Oui. Quoi.
Et pour ce déplacement au Parc des Princes, l'OM qui arrive quand même dans une position assez... compliqué avec cette défaite. Donc, je voulais vous entendre un peu sur l'aspect tactique et ce que doit mettre en place Roberto De Zerbi. Donc, on sait que le PSG s'est qualifié. Donc, il y aura 4 jours pour préparer cette rencontre face à l'OM, qui est toujours un rendez-vous particulier pour le football français et pour ces deux équipes.
La seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'ils aient laissé beaucoup de gomme à Liverpool en prolongation et qu'il y ait un problème de fatigue chez eux. Alors, fatigue, c'est un début de match. Après, tu prends le rythme et tu joues.
Hein. Après, c'est vrai que tout est relatif dans la fatigue. Mais... après 120 minutes de jeu pour cette équipe parisienne.
Quand tu te qualifies, la fatigue, ça se tombe assez rapidement.
Voilà, tu fais bien de souligner, Franck.
Et puis c'est un classico, donc c'est le match qu'il faut gagner. Il y aura les supporters et tout. Moi, je n'y crois pas beaucoup à la fatigue. Je pense que ton problème...
Des croyances positives.
Voilà, ton problème, c'est ta défense. Le seul défenseur qui, à mon avis, tient la route, même s'il n'est pas...
Mais là, en tenant compte de l'absence d'Amir Mourinho, est-ce qu'on reconduit la même défense que samedi soir face à Lens?
Non.
Ça, pour Roberto De Zerbi, je pense que...
La question...
Là, on est mercredi, le match est programmé dimanche soir. Là, il reste encore... encore 3-4 séances d'entraînement avant ce match.
Totalement d'accord. Après, mais avec qui ?
On va voir quand même comment ça évolue. Mais là, on se met à l'instant à la place de Roberto De Zerbi. Quelle défense on aligne au coup d'envoi dimanche au Parc ?
On ne va pas faire l'OM, de l'inédit quoi, sur une défense.
Sur un match comme ça, je pense que c'est quand même assez risqué d'innover en matière défensive.
Ouais, parce
que...
Si tu envoies avec Rongier défenseur central, tu te suicides. Parce que quand Valentin, on voit
en face le rendement de Barcola, Dembélé ou de Varachelia.
Et qu'on sort,
la liste. Ou Gonçalo Ramos en pointe et tout. Non, le problème, c'est qu'il y a l'inconnu, Luis Felipe Ramos.
Voilà, Ramos à nous, qui est différent.
Alors, à mon avis, De Zerbi n'a pas une confiance illimitée, sinon il aurait lancé Lens. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il joue contre Lens.
Mais c'est quand même... Je ne sais pas si on peut parler de flop après 2 mois d'arrivée, mais bon, c'est vrai que ce joueur, on sait qu'il a très très peu joué en Arabie Saoudite, mais... il a 12 minutes dans les jambes depuis son arrivée à l'OM.
En même temps,
ça suscite quand même pas mal d'interrogations.
Que pour 18 mois, quoi. Donc, on ne fait pas jouer.
Le truc, c'est qu'on rappelle.
Mais bon, là, on arrive quasiment dans le sprint final. Il reste 9 rencontres avant la fin du championnat.
Oui.
Et je veux dire, le staff médical de l'OM essaie de le remettre en route pour qu'ils puissent enchaîner les rencontres, mais s'aperçoit que c'est compliqué.
On rappelle que le problème, c'est qu'en Arabie Saoudite, ils ont un nombre d'étrangers limité.
Ouais. Ça, on le rappelle systématiquement.
Ils l'ont placardisé en juin, à la fin du championnat, parce qu'ils avaient pris d'autres gars. Et donc, il n'a pas joué. Il a joué 20 minutes en juillet ou en août. Et il est arrivé. En plus, il a été blessé. Donc, je pense qu'ils ont voulu le remettre à niveau, mais il a eu un problème au mollet, ce qui arrive souvent aux joueurs qui reviennent.
Alors là, c'est vrai qu'on parle d'un joueur qui arrive blessé, qui a un manque de temps de jeu, qui met du temps pour récupérer et se remettre en selle.
Alors, est-ce que De Zerbi...
Pour un entraîneur, c'est quand même pas évident.
C'est compliqué.
C'est quelque chose de difficile à gérer. Hein.
Moi, je pense qu'il ne le mettra pas à Paris, parce que s'il avait dû le lancer à Paris, il aurait fait jouer contre Lens. où ouais. tu savais que tu allais.
Mais là, sur un match voilà. pareil, je pense voilà. que si vraiment il avait voulu le titulariser au parc, quoi, il fallait lui donner voilà. du temps de jeu à, ouais. face à Lens samedi au Vélodrome. Or, ça n'a pas été le cas.
Quitte à ce qu'il joue qu'une heure et qu'il sorte pour éviter un problème musculaire.
Donc le choix n'est pas exhaustif voilà. au niveau
donc,
défensif.
Donc c'est pas lui. Donc il te reste Kondogbia et Cornelius de gaucher.
Cornelius, défenseur suédois, qui n'était pas sur la...
Oui, qui était suspendu. Donc,
qui était suspendu à nouveau, donc qui n'était pas voilà. sur la feuille de match pour ce match face à Lens
après
samedi.
Son expulsion, Auxerre était suspendu. Donc, tu as lui, mais alors lui, c'est pas la sécurité sociale.
Il donne pas un maximum de garanties, ce Derek Cornelius. Donc, voilà, sur un match face au PSG, avec l'état de forme des Parisiens ces dernières semaines.
Avec Dembélé, Kvaratskhelia en face.
C'est quand même un pari risqué, là, pour Roberto De Zerbi de lancer Cornelius en défense. Donc,
c'est-à-dire que le choix.
Ça limite les choix.
Ben, oui. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Hein. Il n'y a qu'une équipe comme nous l'avons. À présent, hormis Rongier, il va falloir trouver une solution pour un stopper droit. Mais bon, il est clair que Kondogbia à gauche avec Balerdi, voilà sur quoi on se profile. Quoi. Il va falloir trouver la solution.
Oui,
côté
et à
droit,
droite, peut-être voilà. Cornelius. De façon, si tu,
pour
ne mets, si
en même
tu
temps,
n'as pas Luis Felipe, ouais. tu n'as personne. Mm. Tu n'as pas d'autres joueurs. Voilà, puisque Murillo est blessé.
Pas, ouais.
Donc le problème, c'est que. Peut-être tu peux renforcer en mettant des hommes de couloir plus défensifs, c'est-à-dire Garcia plutôt que Merlin, qui défend mieux Garcia. C'est un arrière latéral.
C'est
Garcia.
Évident.
Mais on parle de Luis Garcia, le défenseur suisse, mais ouais. quand on voit le temps de jeu qu'il a sur ces dernières semaines, on se demande si vraiment Roberto De Zerbi compte sur lui. Et est-ce que c'est pas quand même je veux dire, lancer Ulysse Garcia sur un match face au PSG et au Parc, ça me paraît totalement improbable.
Moi, l'idée, c'est que sur ton côté gauche à toi, le côté droit parisien, tu as Hakimi arrière-droit.
Et Nuno Mendes sur le côté gauche.
Sur le côté gauche, donne deux latéraux monstrueux. Ah. Tu as Barcola, Kvaratskhelia et Dembélé devant qui viennent souvent sur les ailes dribbler. Plus éventuellement Doué qui rentre ouais. ou
entre autres.
Ou après ça fait que l'embarras du choix
Luis Enrique. Ils ont une équipe monumentale et donc tu peux envoyer un mec une heure et puis le remplacer avec un mec de même niveau.
Non mais j'en reviens à vos propos. Je pense que l'idée Ulysse Garcia n'est pas une mauvaise idée parce que il est meilleur défensivement que Merlin par exemple. Donc sur un côté déjà trouver quelqu'un qui est bon défensivement sur un côté et pour
et toi tu penses Franck que lancer Ulysse Garcia à la place de Quentin Merlin ça apporterait plus de garanties sur
oui je pense que l'idée n'est pas mauvaise,
sur ce côté
qu'elle
gauche.
Peut être judicieuse même parce qu'il est capable de fulgurance et pourquoi pas sur ce match-là quoi. Alors après, bon, trouver un équilibre là-dedans, ça va être compliqué, mais bon, il faut espérer.
Mais à mon avis, il faut que tu fermes tes deux côtés avec des mecs qui défendent. Alors à droite, à gauche, je disais Ulysse Garcia plutôt que Merlin.
Ouais.
À droite, peut-être Lirola. Parce que le jeune
il ne reste que lui ou descend d'un autre milieu
voilà,
de terrain
ou alors Luis
Enrique
s'y retrouve le niveau de l'année dernière en Europa League où il a joué arrière latéral et il avait fait des bons matchs.
Mais après, c'est vrai qu'on a vu que Roberto De Zerbi avait lancé Paul Lirola la semaine dernière face à Nantes et ensuite il est sorti en cours de jeu. Donc,
parce qu'il avait mis stopper droit.
C'est quand même un sacré désaveu pour le joueur espagnol.
Bon, pour un latéral qui se retrouve stopper.
Est-ce qu'on peut penser qu'il peut éventuellement lui apporter de nouveau sa confiance sur un rendez-vous aussi important que.
Je le pense plus offensif que défenseur Lirola.
C'est peut-être un joueur qui apporte un peu plus de garantie sur
un défenseur central. Non, tu l'as vu contre Nantes, il a fait rentrer quand Murillo est sorti sur
blessure. c'est à la suite de la blessure d'Amir Murillo
voilà.
qu'il est rentré.
Il a mis stopper droit et là le mec c'est pas un bon défenseur. Par contre, c'est un arrière latéral de formation. Donc couloir droit pour défendre avec les montées de Nuno Mendes et de Kvaratskhelia, ça peut filer un coup de main à ton stopper droit.
Je me demande si Enrique n'est pas meilleur défenseur que lui, parce qu'il est un peu plus offensif.
Si Enrique de l'année dernière, qui avait fait une belle Europa League,
Là, je pense qu'on n'en est pas au stade des expérimentations sur un match comme ça. Il faut avoir des certitudes. Or, j'ai l'impression que sur le plan défensif, il n'y en a aucune.
Ton stopper droit, tu n'as pas Murillo. Si ce n'est pas Luis Felipe... Et je ne le vois pas, effectivement, comme tu disais, Thierry, le lancer à Paris avec 12 minutes de temps de jeu depuis 6
mois. Pour moi, ça me paraît...
Le mec, tu l'envoies à la mort.
L'animation des milieux de
terrain. Là, c'est l'envoyer au casse-pipe, clairement.
Nos milieux qui peuvent, je dirais, filer un coup de main au niveau défensif également. Il faut voir comment ça va s'articuler. Donc
je verrais bien, alors c'est très défensif.
C'est vrai que si on veut vraiment avoir un espoir de ramener quelque chose de ce déplacement au parc, il va falloir quand même...
Essayer. Le problème, c'est que
Il va falloir qu'il soit bien inspiré, notre ami De Zerbi, sur ce match et dans sa composition de départ.
Et surtout ses joueurs également. Ouais.
Et on n'en attend pas moins de la part des joueurs qui seront présents sur la pelouse.
Encore faut-il qu'il ait... Moi, j'ai un peu regardé l'équipe réserve, voir s'il y avait un défenseur central qui pouvait... Celui qui n'était pas mauvais, c'est le Suisse, Lagnac aussi, qui a été vendu en Belgique.
Il a fait quelques apparitions.
Qui était international espoir suisse. Tu peux... Et tu n'as pas. Tu n'as que des jeunes.
Si vous me permettez une bêtise, très rapide, si on me faisait comme il y a quelques années, si on envoyait l'équipe réserve à Paris. Non, mais ça, c'est une boutade. Pardonnez-moi.
Et
on avait fait un bon résultat.
Mais ce n'était pas la même équipe de Paris.
Il y en a qui ont suggéré l'idée il y a quelques semaines, mais on ne peut pas imaginer que Roberto De Zerbi soit inspiré pour faire ce genre de choses. Mais bon.
On est bien d'accord. C'est le contexte, on en revient, n'est pas dans cette mesure-là. Mais je suis quand même peut-être pas... Je suis croyant, pas forcément pratiquant. Mais en tout cas, j'ose espérer qu'ils vont tout donner. De Zerbi le premier, il doit en rêver jour et nuit de ramener un point de Paris, même si la mission est quasiment impossible.
Voilà. Mais le problème, vu la blessure de Murillo, je ne vois que une défense Cornelius à droite, même s'il est gaucher, mais c'est un défenseur central.
Mamma mia.
C'est quand même un international canadien. C'est quand même un joueur qui est pas mauvais, quoi. Balerdi axial, et Kondogbia à gauche. C'est pour ça que je parlais de renforcer tes ailes, non pas avec des joueurs très offensifs comme Merlin, même si c'est un bon joueur, mais avec des mecs, Ulysse Garcia et Lirola éventuellement, qui sont un peu plus défenseurs, Lirola, quand il était rentré à Lyon, le match qu'on gagne 3-2, non seulement il avait marqué un but, mais il avait fait défensivement un match courageux.
Été plutôt bon ce match-là.
Donc voilà, et puis une ligne de 3 devant avec Hoiberg, Rabiot et éventuellement Rongier plutôt que Bennacer, qui en ce moment n'est pas très très bien, même si son expérience pourrait apporter beaucoup. Trois mecs devant.
Donc,
et puis...
toi, tu penses que Roberto De Zerbi mettrait Ismaël Bennacer sur le banc au coup d'envoi dimanche?
Peut-être.
Il se passerait de l'international algérien pour...
Moi, je pense qu'il a ses idées, mais en même temps, il y a la vérité du terrain à l'entraînement. Il reste 4 séances et à ce moment-là, s'il n'y a pas de défection ou de joueurs...
On ne sait pas ce qui peut arriver s'il n'y a pas de blessure.
Profile justement sur ce que disait Patrick et je suis assez d'accord. Maintenant aussi, l'implication de chaque joueur, même dans ce système de jeu qui ne variera guère, mais je voudrais bien que les milieux de terrain aient cette possibilité, je dirais, de pallier à beaucoup de soucis défensifs et aider notre défense en même
parce
temps.
Que je vois...
Après, on n'est que dans la projection et la spéculation. Reste encore 4 jours avant la rencontre. Donc,
En réfléchissant, je ne vois pas quelle défense à 3. Il peut aligner autre que Cornelius, Balerdi, Kondogbia.
Parce qu'il y a personne. Moi, je voulais juste vous entendre dire sur les meilleurs choix tactiques qu'on pouvait proposer.
Luis Felipe Ramos, s'il avait voulu le faire jouer à Paris, il aurait fait jouer contre Lens.
C'est sûr qu'on aurait pu lui donner du temps de jeu sur ce match face à Lens samedi soir.
Nous en parlions mission précédente, justement, de possibilités de changement tactique de Zerbi. Mais en l'occurrence, c'est vrai que maintenant, ouais, on parlait de défense à 4, etc. Avec Patrick précédemment, pourquoi pas. Mais on n'a pas les joueurs pour se faire. Maintenant, on est parti sur cette défense à 3, etc. Ben, on va pallier les absences et on va continuer ainsi. Ben,
oui, il fait ça de Zerbi parce qu'il a des hommes de couloir. Luis Enrique, Dedic, Merlin, qui sont bons offensivement et qui défensivement ne sont pas extraordinaires. Omar Dedic, il arrive d'Autriche, international bosnien, c'est un jeune de qualité, mais
le championnat autrichien.
C'est pas défensivement, la manière dont il se fait balader contre Saint-Étienne sur le but que prend l'OM. Il s'est fait.
Mais après, si c'est un joueur qui a un peu d'expérience, puisqu'on voit qu'il joue des matchs internationaux, il a joué la Ligue des Champions en début de saison en phase régulière avec
Salzbourg, mais il avait
avec cette
ans,
équipe de Salzbourg.
Voilà. Donc c'est un peu juste, mais je pense qu'il va fermer parce que si tu fais le suicide de vouloir attaquer, tu vas te faire exploser quoi, avec les flèches qu'ils ont.
Et malheureusement, on a vu que ces derniers temps, il y a beaucoup d'équipes qui ont volé en éclats face à ce potentiel offensif du PSG.
Maintenant, je souris.
On arrive à la fin de cette émission.
Justement, on n'a pas une équipe qui sait défendre. Maintenant, il va falloir animer quelque chose, créer de l'abnégation, de la justesse et de la réussite. Il ne faut pas que ça nous fasse défaut ce dimanche.
Voilà, ben on va se quitter. On espère vous retrouver tous et toutes la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On reviendra sur les grandes largeurs sur ce classique, ce PSG-OM qui nous attend dimanche soir à 20h45 sur la pelouse du Parc des Princes. Et on espère bonne chance à cette équipe de l'OM et qui nous ramène le meilleur résultat possible. Voilà.
De tout cœur.
Voilà, on se quitte et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% foot. Allez, bye bye, bonne fin de semaine.
À toutes et à tous.
Au revoir.